al mio medista domma mattina una regina devo inventar senza il colore nella bassia il minuetto della follia e la levanda farà il barà.
Tu étais gay comme un italien quand il sait qu'il aura de l'amour et du vin.
Ce sera ambigu ce soir dans le rendez-vous en direct sur France Culture. Il sera question de séduction, d'opéra, de maquillage, de travestissement, de mélodrame et même, vous l'avez entendu, de Nicole Croisille. Avec John Malkovich qui interprète Casanova dans Casanova Variation, un film qui mélange tous les genres, Benoît Lagan.
Et avec cette nouvelle expérience hybride, on retrouve John Malkovich chantant en acteur séducteur au théâtre comme au cinéma.
19h30, plateau Personne n'est parfait avec François Ozon qui signe Une nouvelle amie, l'histoire étrange d'un homme qui se travestit pour faire le deuil de sa femme, qui devient la mère de son enfant et plus si affinité, Lucille Como.
Retour sur le parcours d'un cinéaste cinéphile ou comment faire du film de travestissement un mélodrame qui finit bien.
19h50, ce sera les sessions live du mardi. Ce soir, Bensé, Benoît.
Oui, une session chanson et voyage avec Bensé pour un extrait de son deuxième album, Le Printemps. Il chantera Cassandre au piano en fin d'émission.
Mais d'abord, c'est l'actualité culturelle. Le nouveau journal de la culture de Zoé Sfez qui prend votre place et on ouvre avec le son du jour.
Il fallait travailler cette matière, faire en sorte que ça devienne un roman accessible, mais en plus il y avait des structures musicales. Par exemple, il y a 49 chapitres, 343 sous-chapitres, c'est-à-dire 7 fois 7. Et puis, maintenant je peux le dire, il y a 777 777 caractères. Donc pour arriver à ce chiffre, il faut faire un travail d'orfèvre après avoir fait un travail de sculpteur.
Bonsoir Zoé Sfez.
Bonsoir Laurent Gomard, bonsoir à tous.
C'est votre son du jour, enfin c'était le nôtre.
Oui, c'était le nôtre, il date du 16 septembre dernier. Nous recevions Antoine Volodine qui parlait de son livre Terminus radieux, un roman post-soviétique qui a nécessité 17 versions, c'est ce qu'il expliquait à l'instant. Et c'est à ce livre qu'a été décerné aujourd'hui le prix Médicis, attribué par 8 voix au premier tour contre une à Laurent Mauvigné. Le prix Médicis étranger a quant à lui été décerné à l'Australienne Lily Brett pour Lola Bensky, un beau portrait de femme, émouvant au au génie du rock des années 60 et 70.
Et tout de suite, on passe au dossier du jour, direction la Pologne, où ce week-end, les présidents polonais et israéliens Bronislaw Komorowski et Reuven Rivlin ont inauguré l'exposition permanente du Polin. C'est le tout nouveau musée de l'histoire des Juifs polonais, construit à Varsovie, là où s'élevait l'ancien ghetto.
Le bâtiment est flambant neuf, il a été construit par l'architecte finlandais Rainer Malamäki. L'idée de ce musée, elle est née dès 1989 à la chute du communisme. L'exposition permanente extrêmement riche, très ambitieuse, entend couvrir 1000 ans d'histoire commune entre juifs et polonais. Alors à la différence du musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris, par exemple, qui est un musée d'objets, de collection, le musée Polin n'expose que très peu de traces authentiques, mais présente beaucoup de reproductions, de photos, de films, de textes, de témoignages, de manière très interactive. Alors si tout le monde salue la volonté de permettre aux Polonais de se réapproprier cette part de leur histoire, certains historiens polonais, mais aussi français et américains, comme Audrey Kiszelewski, professeur à l'université de Strasbourg, regrettent une historiographie qui est très peu critique.
La première impression que j'ai eue, c'est que c'était quand même d'abord un musée fait par des Polonais et pour des Polonais. Le plus important dans ce musée, c'est de montrer et de montrer d'abord, je pense, au public polonais, la part juive de l'histoire polonaise, en fait. Et donc là, effectivement, oui, il n'y a pas d'historiographie vraiment très critique qui est présentée ici. Ça découle aussi du fait que c'est un musée national et que l'historiographie de la nation polonaise, elle est encore assez balbutiement critique. Enfin, donc, du coup, on a parfois effectivement un peu le sentiment que lorsque l'État national polonais était florissant, eh bien, la culture juive et la vie des juifs l'étaient tout autant et que ce sont toujours des éléments extérieurs qui apportent les dangers, les problèmes, les conflits, éventuellement l'antisémitisme. Donc du coup, rien n'est occulté, hein, bien sûr, mais c'est peu critique finalement.
Mais pour les défenseurs du musée, y compris pour les associations juives polonaises, le musée a bien pour vocation de s'adresser à tous.
Oui, c'est l'ethnologue Barbara Kirchenblatt-Gimblett, qui elle est américaine mais installée à Varsovie, qui a conçu cette exposition permanente. Elle l'a conçue comme un théâtre d'histoire, je la cite, et elle défend l'historiographie qui est à l'œuvre.
D'abord, on n'utilisait pas le mot antisémitisme ni le mot pogrom avant le 19e siècle. Avant ce moment-là, on parlait d'émeutes anti-juives ou d'attitudes, d'actions ou de violences anti-juives. Donc on l'évoque ainsi. Nous préférons les termes de coexistence et de compétition entre ces deux communautés. Nous avons voulu raconter les conflits et la coopération entre juifs et polonais. Et ces questions sont présentes à travers toute l'exposition. Nous ne nous adressons pas à une audience ou à un public particulier. L'exposition est à plusieurs voix. Nous citons les gens qui ont vécu cette histoire à travers des témoignages, des textes, des lettres, des documents juridiques. C'est comme une pièce de théâtre, une expression chorale, et le but, c'est que tous les visiteurs puissent s'y retrouver.
Autre sujet polémique, c'est la décision d'installer juste en face du musée un monument aux Justes, ces Polonais qui ont sauvé la vie des Juifs au péril de leur propre vie.
Oui, la décision a surpris, parce que d'abord, il faut savoir qu'il existait déjà deux statues de Justes dans le site du ghetto de Varsovie. L'un des candidats au poste de directeur de ce musée a même été évincé parce qu'il s'opposait à ce projet. Et pour Audrey Kiszlewski, ce monument, en effet, est assez problématique.
Les responsables et le président de la République en tête et même les organisations juives qui défendent le projet répondent que c'est important pour que les visiteurs étrangers aussi voient cette facette-là. Pour, c'est un peu les mots qu'a employé le président de la République polonais lors de l'inauguration du musée, qu'il faut une vision balancée. Mais sauf que la réalité, c'est quand même que ces Justes ont été une poignée et n'ont pas été du tout la position dominante de la société polonaise, et ça faut quand même le rappeler. Donc voilà pourquoi cette nécessité d'équilibrer, si ce n'est que pour se donner bonne conscience et donner une bonne image de son pays aux touristes étrangers, israéliens et autres.
Voilà, alors Audrey Kiszlewski qui salue quand même un musée extrêmement riche et intéressant. 6 heures de visite au moins pour vous faire votre avis. Rendez-vous donc à Varsovie.
Et tout de suite, Zoé, on passe au bref.
Et l'on ouvre avec les trophées du film de la francophonie. La cérémonie sera diffusée ce soir sur TV5 Monde, présentée par Michel Drucker et Aïssa Maïga. Elle a été enregistrée vendredi dernier. La seule personne assez connue en France est Guillaume Gallienne, qui a reçu le premier prix du premier rôle masculin pour Les Garçons et Guillaume à table. Sinon, c'est la Sénégalaise Mariem Dembali qui remporte l'équivalent féminin pour son rôle dans Des Étoiles. Le prix de la réalisation lui revient à Lionel Bayer, cinéaste suisse, pour son film Les Grandes Ondes à l'Ouest.
Fleur Pellerin change de chef de cabinet.
2 mois après son arrivée rue de Valois, Fleur Pellerin va changer donc de directeur de cabinet. C'est Fabrique Bakouche, 39 ans, qui remplace Martin Adjari à partir du 17 novembre prochain. Rien n'explique pour le moment le départ de Martin Adjari, candidat malheureux, je le rappelle, à la direction de Radio France en 2014. Mais Martin Adjari avait été auditionné à plusieurs reprises par le juge Renaud Van Ruymbeek dans le cadre de l'affaire Big Malion avec d'autres dirigeants de France Télévisions, et il en était ressorti avec le statut de témoin assisté.
Une tournée d'adieu pour Sylvie Guillem en 2015.
La danseuse va clore une carrière
La danseuse étoile.
La danseuse étoile, voilà, j'allais dire, qui a débuté à l'Opéra de Paris comme danseuse étoile et qui est ensuite passée à la danse contemporaine.
On reste danseuse étoile jusqu'à la fin de sa vie.
C'est comme les ministres, les présidents, comme John Malkovich, il sera John Malkovich jusqu'à la fin de sa vie. Elle fait donc une tournée d'adieu internationale intitulée Life in Progress, avec au programme 2 créations d'Akram Khan et Russell Malifant et 2 reprises de William Forsythe et Mats Eck.
Et la dernière.
Alors en général, j'aime bien faire des dernières qui sont un peu drôles, vous le savez, j'aime vous refaire rire. Mais alors là, elle ne l'est pas forcément, c'est une histoire de technologie et d'homophobie, car oui, cela peut aller ensemble. Alors ce qui est drôle, c'est de savoir que les Russes, qui ont de grandes, grandes ambitions en matière de technologie, eh bien ces Russes ont volonté un jour, pourquoi pas, de concurrencer Windows et Apple. Et puis il y a une petite entreprise, Zefs Technologies, qui n'est pas si petite puisqu'elle ambitionne de devenir l'Apple russe, avait décidé à la mort de Steve Jobs, fondateur de la marque à la pomme géniale qui s'est éteinte trop tôt, eh bien, cette entreprise russe avait décidé d'offrir une statue d'iPhone 6 à l'université de Saint-Pétersbourg. Voilà, c'est une statue de 1,20 m pour rendre hommage à ce génie et pour inspirer les étudiants qu'ils aient un mentor comme ça qui tous les jours les salue. Voilà, c'est assez cocasse. Ce qui l'est beaucoup moins, c'est que la même entreprise Zefs a décidé de démonter cette statue. Pourquoi ? Pourquoi ? Eh bien parce que le successeur de Steve Jobs, vous le savez sans doute, s'appelle Tim Cook, et que Tim Cook a fait son coming out en début de semaine. Cette statue, donc, elle représente pour la Russie un acte de propagande pour l'homosexualité, ce qui, comme vous le savez sans doute, est interdit par la loi, par un texte qui a été adopté l'année dernière. La fameuse entreprise indique qu'elle va démonter cette statue parce qu'elle ne souhaite pas participer à une quelconque action qui pourrait mettre en valeur l'homosexualité, je cite, « dans une zone d'accès direct pour les jeunes étudiants et universitaires ». Tout de suite, c'est un peu moins drôle.
Des réactions à ce que l'on vient d'entendre, John Matkovitch ? Vous, ça vous a fait rire, en fait. Oui. Et vous riez encore de cette histoire russe.
J'étais en Pologne presque toute l'été, en Varsovie. Et comme ça, j'ai eu la grande opportunité de voir Russia Today, l'émission russe. C'est très amusant. Et je reste juste comme... Je dis juste ça. C'était vraiment... C'est tellement bizarre. La façon qu'ils disent qu'ils voient le monde. Oh, exceptionnel. Je peux pas dire de plus.
François Ozon, une réaction à ce que l'on vient d'entendre ?
Ce qui est amusant, c'est qu'en Russie, on interdit les statues d'iPhone. Ici, c'est les plugs. Voilà, donc on a chacun interdictions. Enfin,
des usages différents, hein, quand même.
C'était la statue de Paul McCartney qui a été...
Mais un iPhone, c'est très phallique aussi, c'est peut-être pour ça.
Ouais, enfin, vous n'avez pas vu de phallus depuis longtemps.
Oui, justement. Ou alors des gens bizarres.
Oui.
Bravo Zoé Sfez.
No comment.
Non, si, commente. On y va.
19-20, le rendez-vous. C'est sur France Culture.
Plateau séduction avec vous, John Malkovich, comédien, producteur, metteur en scène américain. Un parcours qui commence au cinéma au début des années 80, notamment bien sûr dans le rôle de Valmont dans Les Liaisons dangereuses. On y reviendra sans doute car il n'est pas sans lien avec le rôle que vous interprétez aujourd'hui dans Casanova Variation, le film de Michael Sturminger qui sortira en salle le 19 novembre prochain. Le film est une variation à partir des mémoires d'une vie de Giacomo Casanova et puis des scènes d'opéra empruntées aux Noces de Figaro, à Don Giovanni, Così fan tutte de Mozart. Le film croise deux dispositifs. Un huis clos entre Casanova, que vous interprétez, et Elise von der Recke, une ancienne conquête qui s'intéresse de près à ses mémoires. Et puis de l'autre, la captation d'une pièce de théâtre sur Casanova à la fin de sa vie, où on voit vous, John Malkovich, en train d'interpréter John Malkovich, qui joue Casanova. Bande-annonce.
Actors need repetition. I was never capable of doing the same thing twice. I need variation. I require variations.
I am Signore Giacomo Casanova. I need variation. I require variations. I love those variations.
Madamina, il catalogo è questo. Delle belle chiamo io. Il catalogo è vecchio fatio. Osservate, leggete com'è.
Is it true what my cousin Annabelle said?
Sophie.
And she maintained you slept with several thousand women, including Marie Antoinette, Catherine the Great, and La Pompadour.
Is it true, Mr. Malkovich, what my friend Larissa said when she maintained that you've slept with over 1,000 women?
On vient d'entendre votre nom dans cette bande-annonce, John Malkovich, car dans le film, vous jouez être vous-même et en même temps Casanova. Ce n'est pas la première fois que ce dispositif intervient dans votre parcours. On se souvient bien sûr du film Dans la peau de John Malkovich. Qu'est-ce que cela implique de jouer soi et de jouer soi en train de jouer un personnage ? Comment vous en avez parlé avec le réalisateur ?
Mais en fait, au début, j'étais un peu inquiété parce que Charlie Kaufman m'a proposé Being John Malkovich. J'avais adoré le texte, adoré le scénario et j'avais deviné tout de suite que c'était une visionnaire de Charlie Kaufman. Et mon partenaire, j'étais obligé de retourner ici en France, mais mon partenaire a lui appelé pour lui dire on a envie de faire produire et moi de faire la réalisation de ce scénario, mais il doit changer le personnage. Et ça peut être Bill Hurt ou ça peut être qui que ce soit, on s'en fiche, mais on a adoré le scénario. Et Charlie a dit non, ça ne m'intéresse pas du tout, je ne change rien, voilà. Et ok, on a dit ok, ça va. Mais à la fin, j'avais fait ce film Et j'étais un peu inquiété avant, pas trop, mais un peu, parce que j'ai eu toujours une vie privée. Les gens, ils devaient me laisser tranquille, toujours. Et j'ai pas eu envie de gêner tout ça. Mais en fait, ça va, il a passé, c'était intéressant, ok, rien. Mais avec celui-là, j'ai eu aussi j'ai eu peur pour Michael, le réalisateur et l'écrivain, que
pour Casanova Variation,
ça va être en comparaison avec Dans la peau de John Malkovich, et ça ne sera pas du tout bon pour lui. Pour moi, ça m'est égal, je m'en fiche complètement. Mais il a insisté, gentiment, mais il a insisté, parce que on a, à cette époque-là, on a déjà passé 4 ans ensemble en train de faire les 2 tournées de nos 2 opéras. Et il a vu pas mal de choses qui a passé dans ma vie et avec le public, tout ça. Et ça, vraiment, ça lui intéressait beaucoup. Et à la fin, j'avais dit, OK, on va essayer. Et en fait, j'avais même écrit pas mal de cette partie. Par exemple, dans le film, il y a une femme qui est une amie de moi, un personnage, qui est une soi-disant amie productrice. Mm-hmm. Mais en fait, c'était mon agent qui a vu l'opéra en Australie, qui était en hurlant. Elle a détesté ce truc. Elle a passé un dîner, mais en hurlant, en criant avec moi, l'écrivain et maître en scène, et le conducteur, comment on s'appelle ?
Le chef d'orchestre.
Chef d'orchestre, merci. Mais elle a détesté le truc et j'avais dit, mais pourquoi on ne peut pas mettre ça dans notre pièce ? Parce qu'elle n'était pas la seule. Mais pour jouer, moi, il n'y a vraiment rien à faire parce que je suis comme je suis. Je reste plus ou moins toujours poli n'importe laquelle qui arrive normalement. Mais pour jouer Casanova, ça, c'était un challenge un peu différent. Parce que même si j'avais joué déjà toi de le plus grand libertin, ça veut dire Lord Rochester dans une pièce de théâtre anglais.
Valmont dans les Lions d'Orange.
Où j'avais fait la mise en scène après ici à Paris.
Ici à Paris avec des jeunes comédiens. Ouais.
Et Casanova, et j'étais proposé aussi Sade à l'époque aussi. Et comme ça, c'était une espèce de, qu'est-ce qu'on peut dire, est-ce que libertin, c'est un genre, c'est un métier, ça, je sais pas.
En tout cas, pour vous, ça l'est devenu.
Oui, mais ils sont tellement différents, tous les trois, et le truc que j'avais trouvé avec Casanova qui m'intéressait beaucoup, c'était constamment, il a tombé amoureuse, et c'était normalement lui qui était quelque part la victime, lui qui a souffert, lui qui était touché profondément. Et aussi, il m'a intéressé aussi parce qu'il a eu une vie très riche. Il a vraiment vécu son siècle pleinement. Et aussi, il a passé ses dernières 15 ans comme bibliothécaire dans un château. Tout ça, personne de lui. Engagé, très mal traité par les serveurs là. Et c'était une vie, en fait, tragique, mais très intéressante, à mon avis.
François Ozon, quel est le John Malkovich, vous, que vous connaissez ? Qu'est-ce qu'il représente pour vous ? Cet acteur qui joue toujours l'acteur, qu'il est en train de jouer un personnage ?
Un grand séducteur.
Ouais.
C'est vrai qu'en France, on a cette image de vous. Oui, ça vous gêne, non?
Non, c'est pas gênant, c'est juste bizarre, parce que c'est tout ça à cause de les liaisons dangereuses.
Ouais.
Avant ça, j'avais jamais rien joué avec aucune, même millimètre d'un truc sexuel. Aucune.
Mais comment Stéphane Frears vous avez choisi alors?
Mais ce n'était pas Stephen. Ah. C'était, j'étais au rendez-vous au Russian Tea Room à l'époque. J'avais fait mon deuxième pièce de théâtre à New York. Parce que moi, je
viens du théâtre.
On a fait Chicago. Mmh. Et c'était le meurtre de Commis Voyageurs avec Dustin Hoffman. Mmh. Et j'avais joué son fils. Et j'ai eu un ami qui était le demi-chef d'un nouveau studio, Eileen Maisel, qui était avec Bernie Brillstein. Bernie Brillstein et le studio, c'était Lorimar. Et j'étais là pour discuter tout à fait un autre projet, en fait, le Basketball Diaries, qui était fait, mais pas par, par moi après. Et on a discuté ça, et vers la fin de le déjeuner, j'ai lui demandé qu'est-ce que vous avez autrement, comme des projets, tout ça, juste pour, à cause de mon curiosité, et d'être poli, et tout ça, de bonne manière. Et elle a répondu...
La politesse est formidable.
Écoute, on fait les liaisons dangereuses et pourquoi pas, vous ne pouvez pas jouer Valmont. Moi? Pourquoi vous me demandez ça? C'est un choix un peu bizarre quand même. Mais à la fin, elle a dit, mais est-ce que vous êtes intéressé? Et j'étais très, très intéressé par la pièce, mais plutôt comme mettre en scène. Mais j'avais dit, oui, mais bien sûr, c'est un rôle magnifique, tout ça. Mais c'était à cause de ça que tout ça arrivait. Mais avant, pour moi, c'était inimaginable.
Benoît Lagan.
Oui, vous évoquiez tout à l'heure Rochester. Vous avez joué sur la scène du Steppenwolf Theater de Chicago. C'est là que vous avez commencé au milieu des années 70, dans la compagnie que vous aviez fondée. Quel était le théâtre que vous défendiez avant de passer justement au cinéma?
Notre théâtre, c'était le théâtre peut-être le plus viscéral, on dirait, en Amérique. Contre Intello, ou fait semblant, des émotions, la liberté pure. On n'a jamais fait de blocking, nous. On répète, si on a envie de bouger là, ou venir là, ou partir et revenir, voilà, on a fait. Personne n'a rien dit. Et on a développé notre méthode plutôt comme ça. Et c'était un théâtre qui peut être très barbare, mais très drôle, souvent, et souvent touchant. On a eu pas mal d'échecs, nous étions les jeunes de 22 ans, 21 ans. Mais c'était un théâtre qui a très vite gagné une réputation pour une autre espèce de théâtre qui était un théâtre très libre. Et quand on a fait notre première pièce à New York, qui était une pièce de Sam Shepard, qui était appelée Le Vrai Ouest. Ça, c'était une grande. C'était comme un tsunami à New York, parce qu'ils n'avaient jamais vu un truc pareil. Et quand ils avaient retourné deux semaines plus tard, c'était tout à fait une autre pièce. Et on a fait ça chaque nuit, en fait, pendant des années et des années.
Quand vous parlez de théâtre barbare, est-ce que ça avait un lien avec ce que pouvait faire aussi à l'époque le Living Theatre, par exemple, John Malkovich, ou c'était une autre direction?
Non, ça, c'était une autre direction. Ça, c'était plutôt un truc de politique et de
l'apening,
l'époque, et beaucoup plus intello que nous. Normalement, dans nos pièces, tu as eu le père qui a couché avec la fille, qui était très bien armé. Tu as eu la mère qui a couché avec le fils et tout le monde a tué l'autre avec un couteau à la fin. Et voilà. Et c'était les gens, tu vois, je dis blanc poubelle, toujours. blanc poubelle. Qui était quelque part nos éducation, quelque part. Nos petits villages de l'Illinois, quelque part. Mais c'était exagéré beaucoup, mais quand même, quelque part. Et on a gagné une réputation pour faire cette espèce de théâtre. Et comme ça, quand on a fait les pièces, par exemple, de Shaw, d'un écrivain plus élégant, on peut dire, ils étaient un peu choqués. Ils avaient dit, mais il ne peut pas faire Shaw, parce que est-ce qu'il sait lire ou...
Benoît.
Alors, on vous entend chanter dans Casanova Variation. Une expérience que vous aimeriez reproduire plus souvent, John Malkovich?
Mais non, maintenant c'est trop tard parce que ma voix s'est un peu ruinée à cause de toutes les cigarettes et tout ça.
Tant la voix est belle dans le film.
Et merci. Et il était. J'ai eu une belle voix. Ma grande rêve toute mon enfance, c'est de chanter avec le Vienna Boys Choir. Et j'avais demandé chaque année de mes parents, est-ce que vous avez fait les papiers et tout ça. Ils avaient dit oui, mais ils n'avaient pas besoin de toi.
Mais vous avez chanté au départ, en fait?
Oui.
Avant le théâtre?
Oui, oui, beaucoup en avant. En université, c'est comme ça que j'avais gagné ma vie dans les cafés.
Quel était le répertoire que vous chantiez à l'époque?
Folk. Folk music. Ouais.
Alors, vous nous avez demandé, enfin, on vous a demandé plutôt de nous communiquer l'idée d'un son. Et voici ce que vous avez choisi, John Malkovich.
Eddie Grace's Buick. Got four bullet holes in the side. And Charlie Delisle is sitting at the top of an avocado tree. Mrs. Storm will stab you with a steak knife if you step on her lawn. I got a half a pack of Lucky Strikes, man. So come along with me. Let's fill our pockets with macadamia nuts.
Manifestement, il a beaucoup fumé, lui aussi, Tom Waits. Pourquoi avoir choisi cette chanson,
John Malkovich? Parce que cette chanson, premièrement, j'adore Tom Waits et nous sommes des amis, surtout de l'époque. Mais... et j'avais mis son musique dans le... Peut-être c'était la première fois, il n'était jamais utilisé dans une pièce de théâtre à Chicago en 80 qui s'appelle Baum and Gilead, que Tom a beaucoup aimé. Après ça, on a devenu des amis et tout ça. Mais j'adore pas mal de ses chansons parce que Tom... Il a une âme... Et il est très drôle aussi, très ironique, qui est une qualité qu'on ne voit pas trop dans, quand même dans la musique américaine peut-être. Et c'est un grand poète à mon avis. Et cette chanson, ça me fait rappeler de toute mon enfance, dans ce tout petit village avec rien à faire, où on a inventé les légendes sur les gens, où on a pensé que celui-là, c'était mal, celui-là, c'était comme ça, quand le monde... on n'a rien compris, et comme ça, on a inventé une interprétation pour comprendre.
Le rendez-vous. Rendez-vous.
Plateau Travesti avec vous, François Ozon, cinéaste. Vous signez votre 15e long métrage, Une nouvelle amie, sorti en salle demain. Le film s'ouvre par un enterrement, celui de la meilleure amie de Claire, qui est jouée par Anaïs de Moustier. C'est Claire hein, qui est jouée par Anaïs de Moustier. Elle va découvrir très vite que le mari de son amie décédée, qui lui est joué par Romain Duris, se déguise en femme pour faire face au deuil de son épouse. Le secret de cette transformation grandit entre deux, entre complicité, répulsion, attraction, pour une relation qui chaque jour devient plus forte et plus ambiguë. un aspect de la bande-annonce.
Laura était ma meilleure amie. Je serai là toute ma vie pour veiller sur ta fille Lucie et sur son père David.
En fait, je t'ai pas dit, j'ai eu David.
David?
Ouais, comme tu l'appelais pas, je l'ai fait.
Ça me fait du bien de prendre un peu de temps pour moi.
Elle est charmante, non?
Elle a une très jolie robe, c'est vrai.
À quoi, Vizier?
T'as été loin avec la serveuse. David vient de perdre sa femme, toi tu pousses à draguer cette...
Oh, de toute façon, j'ai bien vu que ça l'intéressait pas.
Qu'est-ce qui t'arrive?
Pourquoi tu m'appelles?
J'ai besoin de te revoir.
Tu couches avec David, c'est ça?
Mais non, qu'est-ce que tu racontes? Bonjour madame, je...
Ne dis rien à personne, que ça reste entre nous.
Je sais pas.
T'as rencontré quelqu'un?
Une femme, très douce. Elle me comprend, sans me juger.
T'es malade, David.
Je peux pas passer à côté de ma vie, Claire. C'est en moi.
Ça pourra pas durer, David. C'est une folie.
Je sais.
T'es un pervers. Il faut arrêter.
Je fréquentais alors des hommes un peu bizarres, aussi légers que la cendre de leurs cigares.
Une nouvelle amie, c'est l'adaptation d'une nouvelle de Ruth Rendell, une auteure de romans policiers anglaise, une nouvelle que vous aviez voulu déjà adapter il y a 20 ans. Qu'est-ce qui vous avait marqué dans cette nouvelle à ce point pour que vous y reveniez aujourd'hui? Et pourquoi d'ailleurs à l'époque vous n'y étiez pas arrivé?
La nouvelle m'avait plu effectivement quand je l'ai lue il y a 20 ans. J'avais essayé de l'adapter en court-métrage puisqu'elle fait une dizaine de pages et j'avais trouvé ni le financement. Ni l'acteur. Donc j'avais abandonné. En plus, ce qui me gênait un petit peu, c'est que la nouvelle se termine par un meurtre et qu'en fait, le personnage de Claire, joué par Anaïs de Moustier, était censé tuer le personnage de Virginia. Et en fait, je pense...
Virginia, que... c'est-à-dire donc le personnage de David qui se déguise en femme.
Voilà. Et en fait, cette fin...
Se travestit plutôt.
Cette fin, finalement, elle me plaisait à moitié.
Pour quelle raison?
Parce que, en fait, je me rendais compte, enfin, j'ai compris avec les années, c'est pour ça aussi que je pense que je ne l'ai pas fait à l'époque, que, en fait, j'avais pas envie de raconter l'histoire d'un meurtre, mais j'avais envie de raconter une histoire d'amour et offrir la possibilité à ces deux personnages de vivre une belle histoire.
Le film se regarde aussi comme une réponse frontale aux polémiques actuelles hein, sur le genre, le mariage gay, sur les redéfinitions familiales. Est-ce que c'est pour cette raison, justement, que vous vouliez pas travailler le thriller, c'est-à-dire échapper à toute une tradition du cinéma qui fait du travesti un assassin, par exemple, dans de nombreux films?
Oui, c'est vrai. Enfin, en fait, j'ai absolument pas voulu répondre aux manifestations, mais il se trouve que quand j'étais en train d'écrire mon scénario, il y a eu ces manifestations. Donc, mon film, je me suis rendu compte, allait devenir à mon insu politique, puisqu'il allait parler de choses qui, aujourd'hui, créer une famille, ça devient politique. Parler du genre, du masculin, du féminin, c'est politique. Donc, je me suis posé les questions, comment aborder ces thèmes à travers cette histoire. Mais ce n'était pas le but premier.
Lucille Comeau.
Philippe Duhan, qui est écrivain, vient de publier un roman qui s'appelle Chérie Chérie et qui met en scène un romancier qui se travestit la nuit. Et Duhan raconte que l'activité d'écrire s'assimile de toute façon pour lui au transformisme. Est-ce que vous pourriez en dire autant pour vous du cinéma?
Ah oui, moi j'ai l'impression de me travestir. Enfin, je rentre dans la peau de mes personnages quand j'écris un scénario et après je suis en empathie totale avec eux, que ce soit un homme et une femme. Donc il y a une part, je pense, de travestissement de ma part.
On ne vous a jamais proposé, John Malkovich, de jouer une femme?
Oui, j'avais joué dans le théâtre et j'avais fait une série de photos récemment.
Ah, mais oui, récemment, on vous a vu en effet.
J'avais joué.
En Simone Veil,
oui,
en jumelle de Diane Arbus.
Arbus, Simone de Beauvoir, en train de mettre ses culottes. Marilyn Monroe, Betty Davis. C'était trop. Moi, je passe tradition anglaise où. Ils doivent faire le transvestisme chaque 3 minutes, sinon ça ne va pas. Mais je n'ai rien contre, certainement.
Vous avez vu plusieurs acteurs et actrices pour les deux rôles principaux, celui de David et celui de Claire. Avant de choisir Romain Duris et Anaïs de Moustier, qu'est-ce que vous leur avez fait faire aux essais pour vous décider?
Alors,
ça consistait en quoi?
Les garçons, je les ai habillés. Déjà, c'est la première chose à voir. Donc, on les a travestis, on leur a mis des perruques, on les a maquillés. Et j'ai vu...
Il était comment, Gérard Depardieu?
Non, mais Gérard Depardieu, il l'a déjà fait hein, dans
je
Tenue
sais,
de soirée.
Exactement. Ouais.
Il était un peu vieux pour le rôle, mais je pense que Gérard aurait aucun problème pour jouer ça, au contraire. Non, c'est vrai que j'ai vu plusieurs acteurs français et Romain, il y avait une évidence parce qu'il y avait son œil frisé, il y avait quelque chose de très ludique. Mmh. Et c'est ce que je voulais en fait. Moi, je voulais partager ce plaisir du déguisement, du travestissement, qui est quelque chose d'enfantin chez le personnage de David. Donc il avait ça. Et puis Romain, je pense qu'il voyait vraiment ça comme la continuité de son travail d'acteur. Il pense vraiment que être acteur, c'est composer, c'est créer. Enfin, il aime ce travail. Il y a des acteurs qui aiment arriver complètement vierge. Lui, il aime faire un travail en amont. Donc là, c'était un peu l'apothéose de son travail d'acteur.
Et pour Anaïs de Moustier, qui est formidable dans le film.
Anaïs, c'est vrai qu'elle est arrivée dans un second temps, une fois que j'ai choisi Romain. Là, j'ai fait aussi des essais avec Romain et plusieurs actrices. Et c'est un rôle très important, le personnage de Claire. Tout le monde pense que c'est David Virginia, le personnage principal. Mais pour moi, c'est vraiment elle, parce que l'histoire est racontée à travers elle.
Et son évolution.
Voilà, et à travers ses yeux. Donc il fallait quelqu'un qui soit capable de regarder et d'écouter. Et c'est quelque chose d'assez difficile. Et ce qui est amusant, c'est que j'avais demandé avec une actrice très connue, je lui avais proposé le rôle, elle m'a dit « mais il n'y a rien à jouer ». Et Anaïs, quand elle a lu le scénario, elle a dit « c'est incroyable parce qu'il y a tout à jouer ». Et c'est là que je me suis dit qu'elle avait tout compris.
Je vais poser une question qui n'aura aucune réponse. Et c'est qui cette actrice très connue qui vous dit qu'il n'y avait rien à jouer ?
Alors, qu'est-ce que je peux vous donner comme indice ?
Ah, j'adore, allez-y.
Attendez, il faut que je trouve un truc pour être sûr que vous ne la trouviez pas.
Elle est blonde ?
Elle n'est pas blonde, voilà. Elle est brune.
Bah avec ça, on va pas aller très loin. Lucille,
c'est une très bonne actrice.
Pour vous documenter, François Ozon, vous aviez regardé un documentaire de Chantal Poupeau que vous avez aussi montré à vos acteurs, qui s'appelle Crossdresser, dont on avait parlé d'ailleurs dans l'émission. C'est un documentaire sur ces hommes le plus souvent mariés qui s'habillent en femmes. Est-ce qu'il y a un personnage dans ce documentaire qui vous a particulièrement inspiré pour le rôle de David ?
Non, pas dans ce documentaire. Ce qui m'intéressait dans le film de Chantal, c'est vraiment le rituel, comment elle montrait le fétichisme. En fait, que ces hommes, ils prenaient un pied incroyable, juste à enfiler des bas, à se maquiller, ça prenait des heures, et que leur sexualité était presque dans cette transformation. Non, en fait, c'est un autre documentaire qui m'a influencé, enfin, qui a surtout aidé Romain, je trouve, pour jouer le rôle de Virginia. C'est le film de Sébastien Lifshitz, Bambi.
Bambi.
Voilà, un personnage qui est super émouvant et qui est une femme incroyable. Et je crois que quand Romain l'a vu, ça lui a fait un bien fou parce qu'il a dit « c'est exactement vers là que je veux aller, vers cette douceur ». Il sentait quelque chose de très maternel chez cette femme et je crois que ça l'a aidé à trouver la douceur du personnage et la légèreté de Virginia.
Pour mettre au point justement ce personnage, qu'est-ce qui s'est passé pour Romain Duris ? Qu'est-ce que ça a été au moment de la coiffure, du maquillage, au moment des talons, de la robe ? Qu'est-ce qui a déclenché véritablement, la silhouette ?
Le désir, il était là avant chez lui. Hein. Moi,
mais quand on trouve le personnage, ça s'est passé à quel moment pour lui,
d'après
vous ?
C'est passé au niveau des costumes. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un personnage qui se recherche lui aussi. Mmh. Au début, elle est habillée avec les vêtements de sa mère, de sa femme, donc elle n'est pas vraiment au point. Elle est dans des stéréotypes de la féminité, donc la perruque n'est pas au point, il y a trop de maquillage.
Et après,
donc,
c'est une héroïne hollywoodienne.
Après, elle se prend pour Véronica Lake. Exactement. C'est pas non plus approprié. Mais comme c'est un personnage en recherche, Romain était dans la même situation. On cherchait le personnage, c'était un work in progress aussi sur le tournage.
Lucille.
Comme tous les jours, donc on demande à nos invités de nous apporter un son. Vous avez demandé ça, enfin, pas tout à fait, mais presque.
Ah.
You've always had that.
Yes, by telephone, by postcard, by magazine interviews. You've given me everything but yourself.
I'm white. White. White!
Starring Lana Turner as the great stage star Laura Meriden.
Identification de ce son, François Ozon.
Imitation of Life. Le mirage de la vie en français.
De Douglas Sirk. Vous absolument. Vouliez la musique.
Je voulais la musique, mais j'adore avoir la voix de Lana Turner et la voix off qui fait la bande-annonce. Et
pourquoi
aussi,
ce film, précisément ?
C'est un de mes films préférés. C'est un film que j'adore revoir. Voilà, d'ailleurs, vous le connaissez, John Malkovich ? Il est connu aux États-Unis ou pas ?
Pas trop.
Pas trop.
Ah, pas trop. Ah, bon. Douglas Sirk n'est pas trop connu aux États-Unis ? Ou ce film-là, alors ?
Il est un peu mal aimé, je crois. Il est considéré comme sirupeux et un peu ridicule.
Oui. Ridicule, je sais
pas. À l'époque.
À l'époque.
Mais c'était un énorme succès.
Mmh.
Vous aimez le cinéma de Douglas Sirk, les mélodrames ? de cette époque-là, les années 50?
Oui, moi, j'avais beaucoup aimé les films comme ça. Parce que chez nous, on a juste 3 chaînes à l'époque, évidemment.
Nous aussi.
Et chaque fois, ils avaient montré les films comme ça, ou comme Mildred Pierce, ou comme les autres de Lana Turner, Barbara Stanwyck, Joan Crawford, Betty Davis, qui me rendent fou, qui est magnifique. Et aussi avec beaucoup de talent aussi. Mais oui.
En quoi ce cinéma-là, François Ozon, le cinéma de Cirque, c'est-à-dire le mélodrame des années 50, qu'on retrouve aussi cité dans 8 femmes, hein, littéralement dans certaines scènes, a pu vous marquer à ce point pour qu'on le retrouve dans l'image, dans la musique, dans les costumes que vous choisissez pour vos actrices?
Je crois que c'est une stylisation qui me touche et qui me correspond. Je crois que je m'éloigne de plus en plus d'une forme de réalisme et j'aime de plus en plus l'artifice. Et ce film, Une nouvelle amie, en est, je pense, la preuve. Je pense qu'on peut trouver la vérité des sentiments et des personnages à travers l'artifice. Et je trouve que Douglas Sirk l'a montré de manière incroyable.
Par exemple, ici, je sais que c'est vous qui cadrez principalement, d'ailleurs, tout votre cinéma.
Qu'est-ce que ça Sauf le Steadicam.
Exactement. Qu'est-ce que ça vous permet, vous, de cadrer, justement, en tant que...
Ça me permet de voir les acteurs. Mmh. C'est-à-dire que je ne vois pas les acteurs si je suis assis à côté de la caméra ou si je suis derrière un combo. Je n'arrive pas à me concentrer. Et en ayant l'œil derrière la caméra, je suis le premier spectateur et puis je peux parler aux acteurs. Donc je parle souvent pendant les prises. Il paraît que je fais des bruits quand il y a une scène d'amour, mais je suis très... il y a une interaction qui est très importante. Et puis j'ai l'impression de voir si les acteurs sont bons ou pas. Et je pense qu'ils aiment ça en général. Hein.
Vous
aimez ça ? Ils apprécient que le metteur en scène soit derrière.
Absolument. J'avais jamais compris ce truc d'avoir le vidéo quelque part. Et regardez, ça ne veut rien dire de tout. Il n'y a aucune relation entre ça et qu'est-ce que tu vois quand tu es le cadreur. Et ça, c'est un vrai boulot, très important. Et c'est seulement lui ou elle, vraiment, qui a le vrai point de vue exact sur les choses. C'est bien... Si les réalisateurs, s'ils restent ici dans une chaise, sur scène, ça va. Mais vidéo, je dis, mais ok, ça suffit, j'avais compris. Et les cadreurs sont tellement importants. Et moi, j'avais fait juste une seule film comme réalisateur, mais j'avais cadré pas mal, soit le caméra A ou caméra B, mais toujours, parce que sinon, qu'est-ce que je fais? Je vois rien.
Lucille.
François Ozon, il y a quelques années, vous disiez que vous vous sentiez de plus en plus chabrolien. Dans quel sens?
J'ai dit ça.
Oui.
Je devais parler en termes de production, le fait de faire un film par an et de ne pas viser le chef-d'œuvre à chaque fois. Je trouve que Chabrol avait une manière de prendre son métier, la manière de travailler qui me correspond. Mais je dirais que maintenant, je suis plus romérien que chabrolien.
Et ça tient à quoi alors, romérien ?
Romérien, c'est un cinéaste que j'aime énormément, qui a été mon professeur en fac, donc qui a eu une importance, mais aussi par rapport à son système de production, plus que par rapport au thème de ses films.
Comme Chabrol, par exemple, je sais que quand il tournait, il avait déjà le montage en tête, c'est quelque chose qui est aussi votre signature, François Ozon ?
Non. Non, moi, pas forcément. J'aime bien me donner la possibilité au montage de réécrire le film. Et d'ailleurs, les films, le montage, c'est vraiment un des moments que je préfère parce qu'on essaye des choses, on change la narration. Il y a quelque chose de très stimulant et d'excitant. Je sais que Chabrol n'aimait pas du tout le montage et qu'il n'y allait pas. Alors que moi, je suis présent énormément au montage.
Vous avez vous-même été acteur un temps ou pas?
Non.
Jamais?
Jamais.
Jamais?
Non. Pourquoi? J'ai fait de la figuration. J'ai fait de la figuration... dans un très mauvais film avec Sophie Marceau qui s'appelle L'étudiante de Claude Pinoteau. Voilà. J'étais vraiment très jeune, je voulais voir comment se passait un tournage, donc je me suis retrouvé à danser dans une boîte de nuit. Voilà.
On vous a proposé, je sais, de tourner aux États-Unis, notamment le remake de Soupçon d'Hitchcock. Pour quelle raison vous avez refusé? On a lu ça.
Je me souviens, c'est possible. C'est vrai qu'après Swimming Pool qui avait marché aux États-Unis, on m'a proposé toutes sortes de films. C'est possible que Soupçon me l'ait proposé, mais pourquoi refaire un chef-d'œuvre? Je vois pas l'intérêt. Je vois pas ce que je vais apporter de plus à ce qu'a fait Hitchcock.
Pas la peine.
Le rendez-vous, la session.
L'actualité musicale aujourd'hui, Benoît Lagan.
Et c'est une session printemps en automne, certes, avec l'auteur, compositeur, interprète Bense.
Et oui. Les contes de printemps.
Bense, découvert en 2008, notamment lors des chantiers des Francofolies de La Rochelle. Alors après un premier album sobrement intitulé Album et une longue tournée, Bense s'était absenté pendant quelques années. Il a voyagé avec guitare et harmonica à travers le monde. Et de ses voyages, alors en Inde, au Maghreb, aux États-Unis, à Cuba ou à La Réunion, il est revenu avec un deuxième opus intitulé Le Printemps, qui est sorti en septembre chez Parlophone. Et Bense a fait escale en solo ce soir au piano, dans le studio 108 de la Maison de Radio France, pour une chanson, Cassandre. L'histoire, écrit-il sur son site, d'une rencontre de voyage avec une fille qui croyait avoir des dons de divination. On l'écoute en direct sur France Culture. Bense, c'est à vous.
J'aime une fille belle comme le jour, ou les nuits d'été qu'on passe ensemble. Mais quand s'ouvrent les yeux de mon amour, je tremble, oui, je tremble, car elle sait lire l'avenir. Elle n'y voit jamais rien de très bon, à moins dans l'isoloir d'écrire son nom. Elle s'appelle Cassandre, et toutes les cinq années, elle crache un peu de cendre, comme pour me rappeler la foule des offrandes dont j'acquitte la somme pour épargner des cendres mes confrères les hommes et contenter Cassandre. J'ai beau me dire que je ne crois pas à ces prophéties d'y rester sourd, je tremble tant que je ne marche pas. Je cours, oui, je cours, et bon toutou lèche les pieds de ma déesse, et ses yeux de plomb resteront clos tant que j'écrirai son nom. Elle s'appelle Cassandre, et toutes les cinq années, elle crache un peu de cendre, comme pour me rappeler la foule des offrandes dont j'acquitte la somme pour épargner les cendres mes confrères les hommes et contenter Cassandre. Alors j'écris Cassandre, sinon au mois de mai, elle crachera des cendres, comme pour me rappeler la foule des offrandes dont j'acquitte la somme. J'aimerais me défendre, mais je ne suis qu'un homme, et elle une Cassandre.
C'était Bense au piano en direct dans le studio 108 pour Cassandre, un extrait de son album Le Printemps, paru sous le label Parlophone. Alors si vous souhaitez voir Bense en concert, il sera bien quelque part non loin de chez vous, pour reprendre une formule de Thomas Beau, jeudi en Belgique, à Braine-le-Comte, le 5 décembre au Trianon à Rouen, au festival Polisson de Montbrisson le 13 janvier, ou encore en février à Comble-la-Ville.
Puisqu'on parlait de musique dans le film, dans votre film François Ozon, Une nouvelle amie, le film est rythmé par une chanson qui revient deux fois au milieu du film. C'est un travesti qui est dans un cabaret interprète
en playback
femme de Nicole Croisi. C'est repris
une
à la
femme
fin
avec vous. Une femme avec toi, pardon.
comme vous
c'est le titre.
C'est le titre, mais j'ai bien compris. Repris à la fin du film par Anaïs de Moustier, c'est dans un hôpital. Que raconte ce déplacement de cette chanson, d'après vous, du film ?
Pour moi, il n'y a pas de déplacement. En fait, cette chanson, dès le départ, en fait, elle fonctionne avec les deux personnages féminins, avec aussi bien Claire que Virginia. Mais c'est vrai que le spectateur a tendance
à l'identifier au personnage de David,
mais on se rend compte, en fait, elle agit surtout sur le personnage de Claire.
Tu as eu le père qui a couché avec la fille, qui était très bien armée. Tu as eu la mère qui a couché avec le fils et tout le monde a tué l'autre avec un couteau à la fin.
Et ce qui est amusant, c'est que j'avais demandé avec une actrice très connue, je lui avais proposé le rôle, elle m'a dit « mais il n'y a rien à jouer ».
Merci à nos invités. John Malkovich, Casanova Variation, sortira en salle le 19 novembre prochain. François Ozon, Une nouvelle amie, ça c'est pour demain.
So where's the fucking soldier, Emma?
He must have just left.
Where is he? Tell me.
This is a message. And this tells them you'll match wherever they go.
Demain, deux premiers films avec Benjamin Neschat et Yann Demange, dont on vient d'entendre un extrait de Belfast. Des annonces, Hippolyte.
C'était Le Rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Lucille Como, Benoît Lagan, Adrien Nazelli et Hippolyte Babilote, Journal de la Culture, Zoé Sfez, à la prise de son Clément Daté et Pierrick Monsigny, et à la réalisation Thomas Beau.
Continuez.
Vous pouvez réécouter, podcaster et commenter l'émission sur le site franceculture.fr et rejoindre la grande famille du rendez-vous sur les réseaux sociaux avec le hashtag RDV.
Parce qu'après on dit que je le censure. Il est 19h54, vous écoutez France Culture, c'est bien.